Jean chapitre 1 à partir du premier verset.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce matin, nous allons regarder la question, qui était Jésus? Beaucoup de choses ont été écrites au fil des années sur cette question. Certains même disent qui n'a jamais existé, c'était une invention d'illuminés dans l'Église. Mais il existe plus de preuves pour l'existence de Jésus que pour l'existence de Jules César. Ouais. Comment? Que Jules César, Julius César, Julius César. Mais personne n'ose remettre en question l'existence de Jules César. Certains disent que Jésus, c'était un prédicateur, un guérisseur, un prophète, un philosophe, un grand professeur de morale. Est-ce que vous connaissez Narnia, le monde de Narnia? L'écrivain qui l'a écrit a dit « Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. » Il vous faut choisir, ou bien cet homme était et est toujours le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire, vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne vous laissez pas entraîner à favoriser ce non-sens, à savoir qu'il est un grand maître issu de l'humanité. Jésus ne nous a pas laissé le choix. Il n'a jamais eu cette intention. Est-ce que vous savez pourquoi Jean a écrit son évangile? Jean qui a écrit l'évangile. Et t'as pas de mot. On va lire ensemble Jean chapitre 20, les deux derniers versets. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En d'autres termes, Jean a tout écrit. Tout ce qu'il a écrit, tous les miracles, tout l'enseignement de Jésus, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, il l'a écrit pour que vous sachiez, sans la moindre doute, que Jésus est ce qu'il a prétendu être, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Est-ce que vous savez, dans l'évangile de Jean, où Jean mentionne son nom? À lui. Ouais.
Non, il a dit tout ce qui est écrit.
À aucun moment, Jean n'utilise son propre nom. Quand il parle de lui-même, il s'appelle le disciple bien-aimé ou le disciple que Jésus aimait. Mais il n'a pas toujours été connu comme ça. Avant d'être disciple de Jésus, Jean et son frère Jacques, on n'a pas à confondre avec Jacques le frère de Jésus, dans Marc chapitre 3 verset 17, il portait le nom de Boanerges, les fils du tonnerre. Savez-vous pourquoi on les appelait les fils de tonnerre?
Ouais.
Parce qu'ils avaient un caractère coléreux. Non.
Le père, il est comme ça.
Oui. Ils avaient des colères explosives. Dans Luc chapitre 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'est une bonne attitude chrétienne à avoir, n'est-ce pas?
Oui. On est tous passés par là, oui, oui.
Mais voilà pourquoi il portait le nom « Fils du tonnerre ».
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais Jean, dans son évangile, s'est appelé le disciple que Jésus aimait, ou le disciple bien-aimé. Les autres évangiles ne l'appellent pas comme ça. Il n'y a que lui qui s'appelle comme ça.
C'est de l'égoïsme.
Est-ce qu'il croyait vraiment que Jésus aimait lui, plus que les autres?
Oui. Arrête de lire mes notes, toi.
Jésus avait en effet un cercle restreint de disciples qui partageaient des moments les plus intimes avec lui, notamment la transfiguration. Il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean. À la crucifixion, Jésus a demandé à Jean de s'occuper de sa mère. Mais il faut être assez naïf pour croire que Jésus n'aimait pas tous ses disciples. Quand il a lavé les pieds des disciples, il a même lavé les pieds de Judas. Et on lit dans Romains 2, au verset 11, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Donc, comment Jean pouvait-il s'appeler celui que Jésus aimait? Si on lit tout l'évangile de Jean, on voit que les projecteurs ne sont jamais braqués sur Jean, ils sont toujours braqués sur Jésus. Jean voulait rester anonyme. Et c'est grâce à ce que Jean a écrit sur lui-même dans son évangile qu'on sait que c'est lui qui l'a écrit. Sans mentionner son nom, il dit qu'il s'est penché sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. C-E-N-E-S-C-E-N-E. Mais Jean a détourné l'attention de lui en supprimant son propre nom et en se décrivant avec un trait de caractère, celui que Jésus aimait. Il met en évidence le pouvoir transformateur de Jésus dans sa propre vie. On est tous aimés de Jésus. Mais comment est-ce que Jean est passé de fils du tonnerre à quelqu'un connu pour l'amour? Il a passé du temps en présence de Jésus. Quand on passe du temps en présence de Jésus, il y a quelque chose qui se produit en nous, on commence à lui ressembler. Dans un des épîtres de Jean, le premier, chapitre 4, verset 8, c'est écrit que Dieu est amour. Donc quand Jean a commencé à passer du temps en présence de Jésus, il est devenu l'apôtre d'amour. Dans Jean, chapitre 13, verset 22 à 25, on va regarder le verset 25, Jean était tellement proche de Jésus qu'il devait entendre les battements du cœur de Jésus. Et moi, je prie que notre désir à tous soit qu'on soit assez intime avec Jésus pour entendre le battement de son cœur. D'être assez proche de Jésus pour entendre clairement quand il chuchote. D'être tellement proche de Jésus qu'il commence à nous enlever nos colères explosives, qu'il commence à enlever nos jalousies et nous transformer en disciples d'amour. C'est possible si nous passons assez de temps avec Jésus. Plus nous passons du temps avec lui en lisant la Bible, plus nous passons de temps avec lui dans la prière, plus nous passons du temps avec lui collectivement en tant qu'Église, plus nous commencerons à lui ressembler, plus les attributs de son caractère se verront en nous. Nous reflèterons plus d'amour, car Dieu est amour. Nous reflèterons plus de joie, plus de paix, plus de patience, plus de bonté, plus de bienveillance, plus de foi, plus de douceur, plus de maîtrise de soi. Plus nous passons du temps avec Jésus, plus nous lui ressemblerons. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Dans Exode, chapitre 34, versets 29 et 30, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il venait de passer 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits au sommet de la montagne avec Dieu. Quand il est descendu, la peau de son visage rayonnait. Vous savez pourquoi? 1 Jean chapitre 1 verset 5. Au milieu, Dieu est lumière. Et Moïse a passé du temps avec Dieu et la lumière se voyait en lui. Plus nous passons du temps avec Jésus, plus nous commencerons à lui ressembler. Vous pouvez me dire que vous n'y pouvez rien, vous avez un sale caractère, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, stop. Stop. Jésus n'est pas venu sur terre pour que nous restions comme nous sommes. Il ne nous a pas sauvés pour que nous restions pareils. Il nous a sauvés pour que nous changions, pour que nous lui ressemblions davantage. Tel qu'il est, c'est comme ça que nous serons. Donc, plus Jean passait du temps en présence de Jésus, plus cette colère qui lui a valu le surnom Fils du Tonnerre s'est dissipée pour laisser place à l'amour. On est parti sur le Jean chapitre 1. On va y revenir. Au commencement était la parole. On va s'arrêter là quelques instants. Au commencement était la parole. Quand on lit les évangiles de Matthieu et de Luc, ils commencent avec des généalogies. Pas Jean. Jean voulait nous montrer la déité de Jésus. Jésus est Dieu en chair humaine. Et si Jésus est Dieu, il était forcément au commencement. Donc Jean nous ramène au commencement. Au commencement était la parole. Et si vous voulez, je vais vous donner une astuce pour comprendre la Bible. Il existe un commentaire sur la Bible qui est infaillible à mes yeux. C'est le meilleur commentaire de la Bible qui n'a jamais été écrit. C'est la Bible. Donc, si on se demande, c'est quoi cette parole? On est renvoyé au commencement. Et au commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Jean 1, 1, au commencement était la parole. Dans Genèse 1, 1, au commencement, Dieu. La parole est Dieu. Si on a encore un doute, c'est possible. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est possible. On va aller à la fin. Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Et ça parle de Jésus. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Non, c'est Claudine. Nos paroles révèlent notre cœur. Nos paroles révèlent notre esprit. Et la parole de Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu révèle le cœur du Père, l'esprit de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, regardez le Fils, regardez la parole. Il est l'expression verbale du Père. Vous vous souvenez de Philippe, le disciple, dans Jean 14, versets 8 et 9, Philippe a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Donc Jésus est non seulement l'expression verbale du Père, il est l'expression visuelle du Père. Et ce commentaire de la Bible me soutient dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est l'expression visuelle et verbale du Père. Donc, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, les deux premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc là, si vous n'avez toujours pas compris, au cas où vous aurez loupé ce que dit Jean, elle était au commencement avec Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Si vous pensez que Jésus a débuté sa carrière dans un mangeoir à Bethléem, il était au commencement avec Dieu. Dès les premiers mots de son évangile, Jean voulait que ses lecteurs comprennent que quand il parle de Jésus, il ne parle pas d'un simple homme qui a marché sur terre pendant 33 ans. Il était au commencement avec Dieu. Il était avec Dieu au commencement. J'espère que vous avez compris. Jésus est le sauveur du monde et il a toujours exister. S'il est Dieu, il ne peut y avoir un moment où son existence a débuté. Il a toujours existé. Donc, que faisait-il au commencement ? Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous vous souvenez du début de Genèse, au troisième verset de Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit la parole. En d'autres termes, Dieu a créé le monde par la parole. On va regarder dans ce commentaire. Hébreux, chapitre 11, verset 3, on lit « L'univers a été formé par quoi ? Par la parole de Dieu. » Dieu a dit que ce soit et ce fut. Le monde a été formé par la parole verbale. Le logos en grec. La parole en français. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, il est écrit que tout a été créé, à la fin, tout a été créé par lui et pour lui. Et le verset suivant, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est normal qu'il est avant toute chose, il était là au commencement. Toute chose subsiste en lui. Est-ce que vous faites partie de toute chose? J'ai regardé dans la Larousse le verbe subsister et il a donné deux définitions. Continuer d'être, se maintenir alors que d'autres choses ont disparu. Et la deuxième définition, survivre grâce à quelque chose qui permet de subvenir aux besoins essentiels. Qui est ce quelque chose qui permet de subvenir aux besoins essentiels? C'est lui! C'est Jésus! Jésus est capable de vous faire subsister quand tout va mal. Jésus est capable de vous faire subsister quand vous perdez votre travail, quand vous êtes malade, quand votre mariage se termine devant un juge familial. Toute chose subsiste en Jésus. On va passer au verset 4 de Jean chapitre 1, sinon on n'en finira pas. En elle, donc toujours la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça parle toujours de Jésus. En Jésus était la vie. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en Jésus, vous n'avez pas réellement la vie. Il y en a qui disent qu'ils vivent pour le week-end, ou ils vivent pour leurs enfants. Non. En Jésus était la vie. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Ma mère va normalement serait capable de me donner le prochain verset que l'on va afficher. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Non. Ah oui, mais Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Verset 5 de Jean 1. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres de ce monde n'ont pas compris la lumière de Jésus. Alors, si vous suivez dans une autre traduction, vous aurez peut-être un autre mot à la fin de comprise. En fait, le mot en grec peut être traduit de plusieurs façons. C'est un verbe qui peut signifier saisir, recevoir, s'approprier, percevoir, apprendre, comprendre, parmi plusieurs autres. Étouffer. La Bible du Semeur. Ouais, le on fait partie du verbe. C'est dans le sens que ça, c'est pas une lumière temporaire. C'est une continuité dans la lumière. Ne l'a pas reçu. Ouais, alors. Quenched. Étouffé, mais dans le sens, mais uniquement pour un feu. Quench. Donc, ça reprend la même que la Bible du Semeur. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. N'ont pas reçu. N'ont pas compris. Et dans tout l'évangile de Jean, on voit ces vérités encore et encore et encore dans la vie de Jésus. Ses auditeurs n'ont pas compris, n'ont pas saisi ce qu'il disait. Et le résultat, c'est qu'ils ont commencé à s'y opposer et ils ont fini par le crucifier. Peut-être qu'ici, ce matin, certains n'ont pas pris un véritable engagement envers Jésus parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a quelque chose dans la vie de Jésus, dans la personne de Jésus que vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas seul. Ouais. Le verbe en grec, ça peut être surmonter. Les ténèbres n'ont pas pu surmonter la lumière. Le monde n'a pas compris Jésus. Si nous avons son esprit en nous, nous portons cette lumière partout où nous allons. Cette lumière que les ténèbres du monde n'ont pas compris. Cette lumière que les ténèbres du monde n'ont pas reçu, n'ont pas accueilli. Je suis sûr que parmi nos connaissances, il y en a qui vivent dans les ténèbres. Donc, ils vont s'opposer à vous. Ils vont essayer de vous crucifier parce que vous commencez à luire de cette lumière. Ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas à vous qu'ils s'opposent. C'est à la lumière de Jésus qui luit en nous, parce que si on passe plus de temps avec Jésus, nous allons commencer à luire de sa lumière. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas inquiets. Donc, qui est Jésus? Nous avons vu qu'il était au commencement avec Dieu. Nous avons vu qu'il était le créateur du monde. Nous avons vu que c'est celui en qui toute chose subsiste. Donc c'est lui qui est capable de subvenir à nos besoins. Nous avons vu qu'en lui est la vie, et que ce n'est qu'à partir du moment où nous nous engageons pour lui que nous commençons à vraiment vivre. Nous avons vu que c'est celui qui change notre colère en amour, celui qui nous change. Si vous êtes toujours la même personne qu'il y a quelques mois, je dirais que vous n'avez peut-être pas saisi, accueilli, compris, écouté, reçu Jésus. Vous avez peut-être reçu la religion, mais Jésus n'est jamais venu nous donner une religion. Il est venu pour nous transformer, pour restituer notre relation avec Dieu le Père. Prions. Seigneur, merci parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour nous. Tu nous aimais assez pour quitter le paradis, pour venir vivre sur terre comme un être humain. Merci parce que grâce à tout ce que tu as fait, notre relation avec le Père peut être rétablie. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Tu es lumière, tu es vie, tu es amour. Et tu es parfait. Tu es amour parfait. Tu es vie parfaite. Tu es lumière parfaite. Tu es infini. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous donnes une vie éternelle. Tu es la lumière qui était là avant le soleil et qui sera là après le soleil. Parfois, nous avons du mal à saisir la grandeur, la magnitude de qui tu es. Tu es au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et tu aimes chacun d'entre nous assez pour nous accueillir personnellement, pour nous prendre dans tes bras, pour que nous posions nos têtes sur ta poitrine, pour entendre le battement de ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à développer cette intimité avec toi. que ta personnalité se voit en nous. Pour que nous soyons transformés, changés de l'intérieur.